The Community, c'est le podcast qui traite des réseaux sociaux chaque semaine.
On en discute et on invite des praticiens et leaders dans leur domaine qui viennent partager leurs avis, leurs méthodes et leurs visions sur les médias sociaux.
Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire sur les réseaux sociaux de Nodly. Comme chaque semaine, je suis Enguerrand, comme chaque semaine, je suis avec le CEO dont le charisme n'est d'égal que la barbe saillante, Moïse. Bonjour Moïse.
Salut Enguerrand.
Aujourd'hui, nous recevons Clément Donzel, responsable social media chez Microsoft France. Bonjour Clément.
Bonjour Enguerrand, bonjour Moïse.
Salut Clément.
Alors Clément, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton rôle chez Microsoft et de comment vous fonctionnez à l'heure actuelle, comment vous êtes un peu établi côté réseaux sociaux?
Avec grand plaisir. Donc, j'ai rejoint Microsoft il y a un peu plus de 3 ans. Je suis en charge des réseaux sociaux et de la partie contenu. Donc aujourd'hui, Microsoft en France pour les réseaux sociaux, c'est à peu près une cinquantaine de pages et de comptes. On est principalement sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Et du coup, aujourd'hui, j'ai dans mon équipe une douzaine de personnes qui sont organisées autour de 3 piliers. Le premier pilier, assez classique, toute la partie community management avec 3 responsables qui animent nos différentes communautés sur les réseaux sociaux. Toute une partie studio avec toute la création de contenu vidéo et d'assets digitaux. Et enfin, la troisième partie qu'on appelle social business qui vise à travailler sur de l'employé generated content notamment.
Ok, bah alors, est-ce que tu peux un poil développer cette partie, alors la partie studio? On reviendra sans doute sur les autres questions un peu après, mais quel est le fonctionnement, en gros, qu'est-ce que vous produisez et comment vous le produisez?
Alors déjà, pour partager un petit peu d'historique, il y a encore quelques années, beaucoup de notre contenu, donc encore une fois, qu'il soit vidéo ou graphique, était géré et produit en externe. Donc, il y a quelques années, on a commencé à réinternaliser une partie de ce contenu pour une raison assez simple, c'était le besoin d'être assez réactif par rapport au temps des réseaux sociaux qui demandent d'être extrêmement agile et assez direct dans la création. Et du coup, c'est une équipe aujourd'hui qui est constituée de 2 compétences, de 2 pôles, un pôle vidéo, un pôle créa. Et qui vraiment a pour objectif de produire du contenu de manière assez rapide, assez agile, et contenu qui a pour vocation majoritairement à être diffusé sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être de création de témoignages clients, de vidéos aspirationnelles, de motion design pour la promotion d'événements, d'infographies, de chartes graphiques ou toute autre demande. Donc l'ensemble des demandes aujourd'hui de la filiale sont gérées, reçues au sein de cette équipe, de ce studio interne qui va prendre les briefs vraiment comme une agence, comme si elle était traitée via une agence externe, mais avec la possibilité de prendre des briefs de manière assez rapide et surtout d'exécuter ces tâches de manière beaucoup plus agile que si nous passions par un SLA classique d'agence.
Ok, alors est-ce que tu peux nous parler des différents contenus que vous produisez, comment ils sont distribués sur les différents réseaux sociaux? Donc on peut peut-être commencer par Facebook et puis après on rentrera dans le détail des autres.
Alors, en termes de contenu, alors effectivement, on va avoir des contenus qui sont un petit peu différents en fonction des réseaux sociaux. Si je prends typiquement Facebook, donc on est vraiment sur là un réseau grand public où on va favoriser plutôt les campagnes de performance. Donc, on va être sur plutôt des publicités, des formats 30 secondes. Des digital cards, ce genre de choses. Donc là, on va plutôt sur des publicités du commercial. Sur Twitter, on va favoriser plutôt les prises de parole en public. Donc là, on va être sur du live. Bon, typiquement, on utilise de manière régulière l'outil Periscope, qui est maintenant aujourd'hui un Twitter vidéo, et qui nous permet de diffuser nos différentes conférences de presse ou autres événements en live. Sur Instagram, qui est vraiment le réseau du visuel et du storytelling, on va s'appuyer plutôt sur nos marques type Surface, qui, elles, vraiment font appel à la beauté du produit et à l'environnement visuel de la marque. Enfin, sur LinkedIn, on est plutôt sur des contenus rédactionnels, des contenus de fond, parce que la plateforme est aujourd'hui, voilà, permet ce type de contenu. Donc, vraiment, en fonction des différents réseaux, on aura des formats différents, naturellement, en fonction également des audiences. On essaie quand même d'avoir un mix de contenus assez différents et assez réguliers pour nos différentes communautés.
Le live, aujourd'hui, il est exclusivement sur Periscope?
Alors, il est principalement sur Twitter et également sur LinkedIn. Donc, LinkedIn a lancé il y a quelques mois une plateforme de vidéo. Donc, nous activons également de manière aujourd'hui occasionnelle sur des gros événements, sur des lancements produits ou des événements internationaux. Dans très peu de temps, nous aurons la possibilité également de lancer des lives sur LinkedIn, notamment en France.
Donc, vous n'utilisez pas d'outils de multi-streaming, ce qu'on peut voir de plus en plus d'ailleurs, Gary Vee, qu'on suit beaucoup, le fait actuellement pour justement diffuser sur le live de Facebook, Instagram, enfin tous en même temps. Vous n'utilisez pas ce genre d'outils?
Si, effectivement, on utilise là on est accompagné d'une agence qui s'appelle Brainsonic et qui va nous aider typiquement à broadcaster sur différents réseaux en même temps. Donc le live Facebook est assez facile aussi à mettre en place. Donc on a possibilité pour nos gros événements français d'aller diffuser sur Twitter en natif, sur du Facebook en natif également et sur nos sites via un player YouTube. Qui lui pourra être, il y a un script embedded sur nos différents sites web. Donc, on a cette possibilité aujourd'hui d'aller diffuser en natif sur les plateformes, parce que c'est là où on voit les meilleurs engagements, et également sur nos différents sites internet via l'intégration d'un player YouTube notamment.
Ça représente quelle quantité de ce que vous diffusez comme contenu, les lives? Quelle proportion dans les grandes lignes?
C'est vrai qu'aujourd'hui, les lives, ça doit représenter peut-être 5 à 10% du contenu. On fait les lives vraiment pour des événements qui le méritent. Donc, on est vraiment aujourd'hui sur peut-être un ou deux lives par trimestre.
Et comment vous communiquez le reste du temps si tu devais, en gros, si tu devais faire un classement des types de contenu que vous diffusez, est-ce que vous êtes sur principalement du post, de la story ensuite? Est-ce que vous faites de la vidéo qui soit pas live et dans quelle proportion et dans quel format aussi?
Alors là, on a vraiment différents types de contenu. On essaie d'avoir un mix, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, entre contenu écrit. Donc là, on va avoir des articles, des tribunes, des white papers, ce genre d'articles. On va également favoriser les prises de parole lors des événements, donc que ce soit des lives ou des live tweets notamment, donc pas uniquement de la vidéo. On va donner la parole aussi à nos clients et notre écosystème. Alors, on a des formats vidéo qui sont assez spécifiques, type CEO Room, Experience Room, qui sont assez spécifiques en fonction de qui est interviewé, format interview, face cam ou autre. On favorise également l'usage de nouveaux formats type motion design, même des gifs animés hein, qui sont revenus à la mode depuis quelques années. Et naturellement, on va aussi utiliser les dernières innovations des plateformes. En termes de contenu, on a notamment Instagram Shopping hein, qui est assez récent et qu'on utilise notamment. Donc, comme je vous disais, les lives en natif. On a également de nouvelles fonctionnalités qu'on est en train de lancer avec les différentes plateformes. Je vous parlais de LinkedIn Vidéo. On va également mettre en place avec Twitter la fonctionnalité Like to Reminder, qui est une fonctionnalité de notification pour nos événements, donc qui est assez intéressante. Donc voilà, je vous dis, il y a vraiment un mix de contenu et d'activités sur les différents réseaux pour continuer à être pertinent lors de nos prises de parole.
Est-ce que tu peux nous parler des ensembles des pages que tu gères du coup et comment vous dispatchez le travail entre l'international et les différents territoires que vous avez nationaux?
Alors, bonne question. Donc, on a effectivement cette gestion de communication globale qui sont poussées par nos réseaux sociaux corporate ou réseaux mondiaux. Et donc, on aura dans ces cas-là, lors d'annonces produits au niveau mondial, on aura un souci d'amplification de ces différents messages. Donc, ça, c'est le premier point. C'est vraiment une coordination avec notre équipe à Redmond. Donc avec la nécessité voilà, d'amplifier, de localiser certains messages, mais de nous assurer qu'ils atterrissent bien aussi sur le marché français. Et on a vraiment une partie aujourd'hui, une autonomie dans nos prises de parole sur nos réseaux plus locaux. Donc aujourd'hui, on a une cinquantaine de pages et de comptes sur lesquels nous prenons la parole sur Microsoft en France. Donc sur les quatre principaux réseaux, hein, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, on a d'autres présences un peu plus occasionnelles sur d'autres réseaux. Mais donc voilà, aujourd'hui, on a un panel de réseaux pour communiquer avec nos différentes audiences, que sont les startups, des réseaux pour nos partenaires, des réseaux pour aller toucher les étudiants, le monde éducatif. On a des réseaux grand public. Alors aujourd'hui, avec les principaux que sont Xbox et Windows, on est autour d'un million d'abonnés pour Xbox, sur Twitter et sur Facebook.
En France ou à l'international?
Vraiment sur des audiences françaises. Donc là, ce sont nos deux plus grands réseaux, Windows et Xbox, nos deux plus grandes communautés sur Facebook et Xbox et Twitter. Bon là, c'est sans surprise, hein, ce sont des réseaux, des audiences grand public. Donc là, on est proche du million d'abonnés sur nos réseaux B2B. Donc là, on est autour de quelques dizaines de milliers d'abonnés. Si je prends le compte, par exemple, Microsoft France sur Twitter, on a autour de 50 000 abonnés. Donc là, on est sur une audience qui est beaucoup plus ciblée. Donc une audience professionnelle mêlant des médias, journalistes, influenceurs, utilisateurs également. Donc voilà, on a vraiment ce panel entre le B2B, le B2C, des corporate, jusqu'à même la page LinkedIn Microsoft, qui aujourd'hui a 8,5 millions d'abonnés au niveau mondial. Et en France, donc des personnes qui utilisent LinkedIn mais qui sont sur le marché français, on a aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'abonnés à notre page. Donc voilà, on a vraiment un melting pot ou en tout cas différentes variétés de canaux pour aller parler, échanger avec nos différentes audiences.
Alors, j'aimerais bien que tu nous parles du coup du fonctionnement, prenant un fonctionnement le plus concret, je pense, sur Facebook. Ce qu'on en parle assez peu, c'est du fonctionnement des pages toutes recentrées sur une même entité globale. Donc, visiblement, c'est votre utilisation parce qu'il y a une redirection vers la page qui concerne l'utilisateur. Donc, oui. Moi, si je vais voir la page de Microsoft, je vais tomber sur Microsoft France qui, elle, va afficher, il me semble, alors j'étais juste avant, 13 millions de fans, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, qui sont les chiffres mondiaux. Donc ça, c'est effectivement les plateformes hein, qui ont consolidé en tout cas le nombre de followers au niveau mondial et qui ont regroupé les pages filiales sous les pages mondiales. Donc en fait, pour un utilisateur, le nombre est tout de suite conséquent, sachant qu'effectivement, il ne verra qu'une page au niveau mondial. C'est le cas également pour LinkedIn. Donc LinkedIn et Facebook aujourd'hui voilà, concatènent ou agrègent en tout cas l'ensemble des followers. Par contre, naturellement, d'un point de vue gestion des pages, nous avons accès aux chiffres par pays, naturellement. Par contre, ce qui va se passer, c'est que généralement, les plateformes, elles vont regarder soit la langue de configuration de votre Facebook ou votre LinkedIn pour ensuite vous proposer du contenu qui soit géotargeté. Si vous changez demain, si vous vous connectez de Londres ou si vous changez votre settings, votre langue dans la plateforme, vous aurez très probablement du contenu qui sera dans cette langue-là. Donc là, c'est la nouvelle manière voilà, de gérer les pages. Ça a simplifié quelque peu la gestion aussi pour les entreprises, sachant que nous, quand même, dans le back-office, on arrive à déterminer nos audiences précises. Par pays, par langue, etc.
Ok.
Moi, j'ai une question par rapport à ce que tu disais. Donc, vous avez différentes marques, vous avez différents types d'audience. Évidemment, chaque plateforme, ça t'en a parlé, a un usage différent en termes de contenu que vous allez y mettre. Comment est-ce que vous vous adressez à chacune de ces audiences par rapport à la marque que vous allez mettre en avant? Quelle est votre approche, par marque, et deux, quel est le couple réseau social type de contenu qui engage le mieux chez vous?
Alors, pour répondre déjà sur le type de communication, donc on va choisir effectivement le bon réseau pour la bonne communication. Et ça va vraiment dépendre de l'audience que l'on souhaite, avec laquelle on souhaite communiquer. Donc Facebook, typiquement, on va être plutôt sur du grand public. D'accord ? Donc on ira plutôt sur cette plateforme-là pour aller atteindre et communiquer avec nos communautés grand public. Donc en termes de contenu, ici, on va essayer de favoriser l'engagement et la proximité. Alors, je prends un exemple sur grand public avec notre page Windows. On a lancé il y a quelques semaines notre campagne Windows Forever, qui est aujourd'hui une campagne, en tout cas en organique, et qui marche assez bien. Pourquoi ? Parce qu'elle fait appel justement à, on va dire, un peu l'usage de Windows d'il y a quelques années. Ça rappellera un peu aux anciens, comme vous et nous, j'oserais dire, les premiers usages. Et en tout cas, ça fera appel à la fibre un peu nostalgique. Et ça, c'est le type de contenu qui marche beaucoup, parce que les gens s'identifient, parce que c'est le genre de contenu qui nous rappelle les bons moments. Et Windows a fait partie de cette évolution de l'informatique dans les foyers. Donc, c'est vraiment ce type de contenu qui fait appel à la fibre émotionnelle. Typiquement le type de contenu qui engage. On voit des taux de retour d'engagement en organique qui sont assez intéressants et plus importants que d'autres campagnes. Typiquement, quand on est sur de l'Instagram, avec notamment notre marque Surface, là, on utilise toutes les capacités du réseau à développer du storytelling et du visuel. Donc là, on va vraiment utiliser Instagram avec du shooting de produits, avec certains influenceurs qui vont mettre en valeur leur travail, et au travers de leur travail, la manière dont la marque Surface les accompagne et leur permet d'atteindre leurs objectifs et de favoriser leur création. Donc, on est vraiment, il n'y a pas vraiment un contenu type par plateforme. Je pense que différents contenus peuvent être essayés sur chaque plateforme. On essaie justement de ne pas avoir cette grille assez stricte, de se dire, bon, alors sur LinkedIn, c'est tel format vidéo, tel type de contenu avec le nombre de mots maximum. On essaie vraiment d'être en mode test and learn, parce que les algorithmes des plateformes changent énormément, très souvent. Et du coup, on est plutôt en mode A/B testing, on va dire. On va essayer deux formats assez différents, deux wording assez différents, des vidéos de 30 secondes, des vidéos de 2 minutes. Et en fonction des contenus, on va s'apercevoir que certains sujets, certains formats marchent mieux que d'autres. Je vous parle par exemple de la vidéo. Très souvent, on nous dit faut pas faire de vidéo de plus de 30 secondes sur les réseaux sociaux, parce que le temps moyen de visionnage, notamment sur Facebook, c'est 2 secondes et demie ou 3 secondes la vidéo. D'accord ? C'est des stats qu'on voit dans votre timeline. Grosso modo, une vidéo va être vue à peu près 3 secondes. Effectivement, pourquoi créer des vidéos de 30 secondes ? Et on s'aperçoit que sur certains formats, des vidéos d'une, deux minutes fonctionnent extrêmement bien, avec un taux d'attention bien supérieur à la moyenne. Donc, on essaie justement de ne pas avoir ces a priori sur les différentes plateformes, parce qu'on s'aperçoit que ça évolue assez rapidement.
Et alors, justement, comme tu parlais des vidéos courtes, IGTV, pour le coup, c'est tout l'inverse au niveau de l'usage, parce qu'ils poussent plutôt à faire des vidéos longues. Est-ce que vous avez l'occasion de mettre en place ce genre de vidéo sur ce support qui est IGTV?
Alors, aujourd'hui, les formats vidéo les plus longs se situent autour de 7-8 minutes, format interview. Donc, deux personnes qui échangent, donc format plutôt conversationnel. Ce sont vraiment les formats les plus longs, avec une charte assez sobre. Donc ces formats-là marchent assez bien, surtout car ils sont destinés à des audiences assez, assez précises. Donc c'est des formats qui permettent de développer des contenus de thought leadership, des contenus de, qui permettent d'aller un peu plus en profondeur sur les sujets. Donc on est sur une audience plus restreinte, mais avec des taux de visionnage beaucoup plus importants. Après, on va également être sur des formats beaucoup plus courts, de l'ordre de 5 à 10 secondes, qui engagent beaucoup mieux, mais qui vont avoir des objectifs différents. Il y a un point sur lequel on fait très attention, ce qui est assez nouveau pour nous, c'est que depuis l'année dernière, dans le cadre de, notre, de nos initiatives de rendre nos contenus accessibles au plus grand nombre, donc nous, typiquement, nous traduisons et nous sous-titrons l'ensemble de nos vidéos en français. Donc ça a été aussi un travail qui a été assez important à mettre en œuvre. Mais l'ensemble de nos vidéos aujourd'hui sont sous-titrées, et peu importe le format, format 30 secondes ou format 8 minutes.
Et quid d'un YouTube dans cette stratégie vidéo ?
Donc aujourd'hui, YouTube, on a naturellement une présence sur YouTube, notamment avec donc la page Microsoft France. YouTube est aujourd'hui utilisé comme repository pour l'ensemble de nos vidéos, pour également héberger le live. On n'a pas aujourd'hui de volonté claire d'établir notre communauté, une communauté, on va dire, de followers sur YouTube. Pourquoi ? Parce que typiquement, quand on va créer du contenu, on aura tendance à le pousser sur les plateformes où sont les personnes. Je vous parlais de Twitter. Twitter, on va pousser du contenu en natif. D'accord ? Donc, le contenu va être directement disponible sur la plateforme Twitter. Sur Facebook, c'est la même chose. Donc, on a vraiment l'important pour nous, c'est de pousser le contenu et de le rendre disponible directement sur les plateformes pour que l'utilisateur, d'un point de vue expérientiel, puisse consulter et consommer ce contenu de la manière la plus simple possible.
Et alors, évidemment, puisqu'on est donc sur la question de la vidéo, alors, est-ce qu'un Twitch pour Xbox, par exemple, peut présenter un intérêt ? Est-ce que vous avez déjà un usage dessus ? Et évidemment, TikTok, parce que c'est clairement là où tout le monde veut se positionner. Et peut-être qu'un Xbox, pour le coup, peut en bénéficier peut-être plus qu'un Office 365, par exemple.
on est d'accord. Alors, ça fait partie de la variété des marques que l'on couvre dans l'équipe, et c'est aussi ce qui fait la richesse de mon travail. C'est vraiment de travailler avec Xbox et avec M365 ou le cloud. Donc, on est vraiment sur des univers complètement différents. Est-ce qu'un Twitch peut être intéressant pour Xbox ? Naturellement, ils l'utilisent. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent pour les gamers, pour un réseau, enfin pour un produit qui est extrêmement visuel, naturellement. Donc oui, on l'utilise. Après, TikTok a vraiment, on va dire, pour un autre réseau virtuel, enfin vidéo. Bon, on regarde généralement quand un réseau comme ça émerge assez rapidement, ou en tout cas prend de l'ampleur sur une audience précise. Mais TikTok aujourd'hui n'est pas, on va dire, prioritaire en termes d'audience que l'on souhaite cibler. L'audience de TikTok, on est plutôt sur les 10-13 ans. Du coup, voilà, on n'est pas forcément sur des plateformes sur lesquelles on souhaite nous communiquer aujourd'hui, ou en tout cas des réseaux prioritaires.
Ok, et alors moi j'ai une question, donc sans transition aucune. Hein, donc vendredi dernier, on a constaté des problèmes sur Facebook, notamment liés aux droits voisins. Et je vois que vous en êtes victime aussi sur vos différentes pages. Donc en gros, pour expliquer, Facebook a décidé de ne plus afficher l'image et ou le titre quand il est partagé par des tiers, et ça vous impacte directement, parce que vous, je vois que par exemple sur la page Microsoft France, vous partagez énormément de contenu de différents médias, et donc vos posts n'ont plus d'image. Alors je ne sais pas si vous aviez remarqué ce problème, parce qu'il est récent, mais du coup c'est pour savoir comment tu penses passer au travers de ce problème là
Généralement, ça, c'est effectivement un exemple, mais on pourrait en citer plusieurs de modifications de l'algorithme ou des évolutions des différentes plateformes qui, en fait, ont des impacts directs ou indirects sur les marques et sur les annonceurs. Typiquement, ce genre de scénario, nous allons prendre contact avec la plateforme, avec Facebook, pour essayer de comprendre, en fait, quel était l'objectif, faire notre retour. Pour leur indiquer les différentes problématiques de branding, de brand safety ou autres, de performance de campagne ou ce genre de choses, ou de reach en organique. Et on va travailler ensemble pour améliorer cette situation si elle est critique, comme ça peut être le cas ici. Donc, on a l'avantage, voilà, d'avoir l'écoute des différentes plateformes en tant qu'annonceur pour essayer de faire évoluer les choses assez rapidement, parce qu'effectivement, ça peut être des problèmes assez, assez importants dans le monde des réseaux sociaux. Donc là, on est plutôt en format discussion avec les différentes plateformes pour essayer de résoudre ces problèmes.
Ok, et là, il y aura combien d'intervenants dans les discussions? Il y aura potentiellement même le gouvernement, parce que ça dépend aussi de l'Europe. Donc, c'est un sujet qui est... Enfin, c'est un sujet passionnant, palpitant, et on va voir ce qui va se passer les prochaines semaines, les prochains jours. Ok, il me semble qu'on n'a pas encore parlé de campagne et d'advertising. Je pense que si tu peux nous expliquer. On a perdu Internet, non?
Je vous entends.
Ouais, ok.
Oui.
Donc, si tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement des campagnes au sein de Microsoft et du coup comment vous activez les différentes campagnes sur les différents leviers, voilà. Faire un petit peu la même discussion qu'on a eu avant sur l'organique.
Donc aujourd'hui, là, pour recontextualiser un peu l'organique, on parlait de Facebook. Donc depuis quelques années, je pense que ça n'a échappé à aucune marque. Le reach organique a radicalement diminué et d'année en année, on voit le taux d'engagement sur les postes en organique diminuer pour les marques. Pourquoi ? Parce que les différents postes que nous allons publier se voient de moins en moins sur les timelines des utilisateurs. Donc ça, c'est des changements d'algorithme. Comment faire pour aujourd'hui nous assurer que nos différents messages soient bien visible pour l'ensemble des communautés et des utilisateurs? Donc, on pousse des posts via du paid media. Donc, on a développé depuis quelques années, ça doit faire à peu près 2 ans maintenant qu'on est assez actif sur ce type de campagne. On a développé en interne via notre plateforme du boost de poste, à savoir que en fonction des différents messages, on aura capacité à amplifier via quelques milliers d'euros, voire même quelques centaines d'euros, différents messages via la plateforme de paid, pour que ces messages soient vus par nos différentes communautés et pour pallier à la baisse du reach organique. Sur certaines audiences, sur Facebook typiquement, tous les messages en organique vont être boostés en paid. Donc, comment faire ça aujourd'hui ? On l'a développé en interne via une plateforme qui nous permet justement de gérer l'ensemble de ces différentes campagnes et qui nous permet en 5 à 10 minutes de prendre un poste, de mettre 200, 500 euros, 1000 euros, voire un petit peu plus pour aller générer de l'engagement sur le poste. Donc, c'est quelque chose qui a été, qui finalement, quand on le dit, paraît assez simple, mais qui derrière, notamment pour une organisation de la taille de Microsoft, fait entrer en jeu un certain nombre de paramètres, qu'ils soient des paramètres de privacy, confidentialité, budget. Aujourd'hui, on ne crée pas un budget comme ça en 10 minutes. Donc, il y a tout un processus de simplification qui a été mis en place pour avoir cette agilité de lancer des campagnes en finalement quelques minutes et de booster des posts en paid. Donc, ça, c'est vraiment une agilité que nous n'avions pas il y a encore quelques années et qui aujourd'hui est devenue essentiel. Donc, on a chaque mois, on va aller sponsoriser une centaine de postes avec des montants qui peuvent être, voilà, de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Et ça, c'est quelque chose que nous voyons aussi chez nos différents partenaires qui développent cette agilité de paid media. Donc, c'est vraiment une chose qui nous permet aujourd'hui de pallier à cette baisse du reach organique, c'est d'avoir cette agilité pour, de manière tactique, pousser du contenu. On a également des campagnes qui, elles, vont être plutôt des campagnes qui vont s'étaler sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Et là, nous allons, de manière assez traditionnelle, assez classique, travailler avec nos agences médias qui, elles, vont développer des plans médias beaucoup plus larges avec des recommandations de campagne, des exécutions, des bilans à mi-parcours, des bilans à fin parcours, etc. Mais là, on est plutôt sur de l'achat média classique avec des agences classiques. Mais cette capacité à exécuter des campagnes en mode tactique est assez récente et elle est critique aujourd'hui pour le business chez nous.
Alors justement, je comptais rebondir là-dessus et alors le fait que tu rajoutes le terme critique dessus me paraît d'autant plus justifié pour te poser la question. Ce côté agilité, à la fois sur la production et le fait de pousser des postes, qu'est-ce qui vous a amené à cette stratégie-là ?
Je dirais que c'est le temps social media impose aux marques d'être extrêmement réactifs sur le marché. Enfin, réactif et pas seulement réactif, mais également proactif, à savoir, on me dit, je vais prendre un exemple hein, qui pourrait arriver ou qui a pu arriver. Je reçois un email d'un responsable chez Microsoft qui me dit demain, on a tel influenceur ou tel businessman qui arrive au campus. Est-ce qu'on a capacité à prendre l'opportunité et l'enregistrer pour une vidéo de 2 minutes pour savoir différentes problématiques business et profiter de sa présence pour créer un contenu qu'on n'aurait pas pu créer sinon assez aussi facilement. Donc typiquement, on va mobiliser l'équipe interne, donc le studio. On a un espace dédié au 8e étage du campus pour aller avec fond vert, avec tout l'équipement nécessaire pour interviewer cette personne-là, réaliser le montage directement sur place, la captation, le montage, le sous-titrage et en finalement 24 heures, si ce n'est moins, avoir capacité à utiliser la vidéo et la poster directement sur les réseaux sociaux avec éventuellement de l'amplification en paid derrière. On s'est amusé lors de notre dernier événement donc à Porte-Maillot l'année dernière, Microsoft Experience, en moins d'une heure en fait, de gérer toute la partie captation, montage, sous-titrage, push sur nos réseaux organiques et amplification via une campagne de paid. Le tout en 50 minutes. Donc, c'est quelque chose sur lequel voilà, on voulait faire le test pour voir si on avait capacité à le faire. Et je vous promets que tourner une vidéo et la sortir sous-titrée et amplifiée en 50 minutes, ça a été assez sportif. Mais c'est typiquement le genre de choses qu'on est capable de faire pour des situations qui l'exigent.
50 minutes, ouais, c'est court. C'est très, très court pour faire ça.
Et du coup, vous êtes combien pour faire ça ?
Donc dans l'équipe, oui, parce que c'est vrai que je suis passé un petit peu vite sur l'organisation. Donc dans l'équipe social media, 12 personnes, 3 social media managers, donc qui s'occupent de l'ensemble de l'activité animation des réseaux sociaux, notamment. On a la partie studio avec 8 personnes. Et du coup, donc 3 vidéos, enfin réalisateurs vidéo, monteurs cadreurs, un chef de projet et 4 personnes également dans la partie créa. Donc, tout ce qui est direction artistique. Donc, vraiment, on a cette capacité à pouvoir réaliser du contenu de manière assez agile, en réactif et notamment. Donc, et j'ai un dernier pilier, donc le social business avec une personne dédiée. Mais vous voyez que le pôle aujourd'hui, création et vidéo, est aujourd'hui le pôle probablement le plus dynamique dans lequel nous avons énormément de talent pour aller capturer l'instant, créer du contenu à valeur ajoutée qui sera ensuite publié. Vous savez, hein, c'est toujours content is king. Je pense que c'est toujours aujourd'hui d'actualité.
Moi, j'aimerais bien rebondir sur un truc, parce qu'Antoine Morel, donc du Slip français qu'on avait reçu, d'ailleurs dont le podcast est en ligne et qui est fort intéressant, nous parlait de social listening et de comment il rebondissait sur l'actualité. Donc là, vous, par exemple, vous avez une actualité interne entre guillemets comme celle de, d'une personnalité qui vient sur le campus, est-ce que vous allez par exemple rebondir, donc lui nous donnait l'exemple de Game of Thrones a très bien marché, donc comme on voit que ça marche très bien là maintenant que ça engage beaucoup, on va faire un slip spécial fourrure Winter is coming et on communique comme ça de façon un peu décalée, alors pas forcément de façon décalée, mais par contre est-ce que vous allez rebondir sur l'actualité pour vos contenus?
Alors on l'a eu fait. On l'a eu fait il y a encore quelques temps. Je n'étais pas encore forcément à ce poste-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vocation à rebondir sur l'actualité? Pas forcément, j'oserais vous dire. On n'est pas, on n'a pas volonté à aller saisir l'opportunité de communication dans cette immédiateté. Pour le coup, on aurait capacité à le faire, mais on essaie justement d'avoir une stratégie, une ligne éditoriale qui soit assez claire et une stratégie de communication qui soit lisible. Donc voilà, on essaie d'être une marque qui soit responsable, mais qui soit aussi lisible en termes de communication. Et notre stratégie, voilà, n'est pas de rebondir sur l'actualité pour en saisir l'opportunité. Donc vraiment, aujourd'hui, on n'est pas sur cette activité-là. Après, je comprends que d'autres marques, type Slip Français ou d'autres, hein, jouent effectivement avec cette actualité. Mais je pense que c'est dans l'ADN de la marque. Aujourd'hui, on n'est pas sur ce positionnement-là, même si on avait capacité complètement à le faire.
Alors, je vois que le 7 octobre, à 11h51, vous avez posté vous avez fait un post sur Facebook concernant Notre-Dame. Et donc, vous avez mis en relation, là, pour le coup. Alors, c'est une actualité, certes, pas tout à fait récente. Mais là, on peut dire que c'est un peu le cas.
Alors, ça aurait été le cas si Microsoft avait été mis en avant. Bon, déjà, je vous remercie de suivre nos réseaux sociaux. Et en fait, c'est une actualité. Alors effectivement, qui là est un petit peu particulière, qui a touché, je pense, beaucoup de Parisiens, de Français. Et quand on regarde un peu sur les réseaux, notamment et dans les médias, qui a touché le monde entier. Là, on a mis en avant une de nos startups avec qui on travaille étroitement et qui vise à modéliser en fait les différents lieux qui sont touchés par différents lieux et héritages en fait qui sont touchés par des guerres, par d'autres problématiques qui font que la conservation du patrimoine pourrait être en jeu, qui s'appelle Iconem d'ailleurs, et c'est suite à la demande de cette start-up que nous avons décidé de médiatiser son action et son initiative qui visait à récolter un ensemble d'images qui permettaient justement d'aller recréer en 3D Notre-Dame et de participer à sa restauration. Donc dans ce cadre-là, effectivement, on utilise la force, on va dire, de communication de nos différents réseaux et l'image de Microsoft pour aller pousser cette initiative, mais qui est en tout cas réalisée par l'un de nos partenaires de notre écosystème. On n'a pas vocation, nous, si vous voulez, à mettre en avant notre nom, mais plutôt notre écosystème dans ce cas-là. Mais encore une fois, ça reste assez exceptionnel et pour des événements comme celui-ci. Voilà, mais on ne va pas être sur…
Alors, je vois quand même un deuxième post le 16 octobre sur la journée mondiale de l'alimentation. Donc là, on est clairement dans l'actu.
Oui, mais alors on parle des journées d'eux, on est sur Twitter, c'est encore une autre dynamique. Hein, mais là, c'est plutôt un clin d'œil, c'est comme les vendredis lectures ou ce genre de choses. Là, ça fait partie, on va dire, d'une communication un petit peu plus légère qui n'a pas pour but de pousser autre que de faire des clins d'œil à nos différentes communautés. On n'est pas du tout sur des communications, j'allais dire, opportunistes, si ce n'est effectivement les journées d'œufs. Mais on n'attend pas, si vous voulez, il n'y a pas de KPI par rapport à ces journées d'œufs. C'est plutôt des clins d'œil pour participer à la conversation. Mais ça reste relativement léger sur ces aspects-là.
Ce qui est important côté gestion communauté, c'est, en fait, là, ça me rend un peu fou parce qu'on arrive à la fin du podcast. J'aurai encore, moi, personnellement, 40 questions. Il y a un truc qu'il faut absolument qu'on touche là parce que tu en as parlé au début et on n'a pas encore vraiment mentionné ce sujet. C'est la partie social business et comment est-ce que vous allez avoir les employés en tant que participants actifs de la stratégie réseaux sociaux. À l'heure actuelle, on voit énormément d'entreprises, de plus en plus en tout cas, adopter une approche qui inclut les employés. Comment vous, vous arrivez à amener les employés à se sentir participants de cet effort ?
Alors, un bon point, et je pense qu'en préambule, c'est vraiment la manière dont les marques communiquent sur les réseaux sociaux doit évoluer. Et les messages aujourd'hui, selon moi, doivent être portés, doivent être personnifiés, personnalisés et surtout incarnés, non pas seulement par les marques, mais aussi par les employés. Donc, c'est vraiment toute la notion d'employee advocacy, d'ambassadeur qui est derrière. À titre d'exemple, on utilise donc, des plateformes d'employee advocacy chez Microsoft. On était chez Sociable, on est aujourd'hui sur LinkedIn Elevate. Et pour prendre un chiffre qui, j'espère, sera parlant pour nos auditeurs, sur 20% du contenu qui est géré, créé par les employés Microsoft, 20% de ce contenu-là va générer plus de 50% de l'engagement. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une appétence, en tout cas, du contenu créé par les employés et partagé sur les différents réseaux de nos employés. Pourquoi ? Parce que les utilisateurs cherchent du contenu qui soit authentique, qui ne soit pas forcément du contenu brandé ou du contenu qui soit un petit peu aseptisé par les différents services marketing ou communication. Donc, on va vraiment favoriser cette prise de communication et de création de contenu par les employés à destination de nos réseaux sociaux. Donc, comment on les encourage ? Bah, on travaille avec eux sur la rédaction. On leur explique que travailler leur personal branding, c'est aussi travailler leur prise de parole, développer leur communauté et leur crédibilité. Donc, on a vraiment vocation à les accompagner là-dessus. L'autre aspect que je voudrais signaler par rapport à ce sujet, qui est vraiment un sujet aujourd'hui clé et je pense qui va être amené aussi à évoluer et à prendre de l'importance dans les prochaines années, c'est vraiment, on a fait quelques tests sur des digital cards poussées sur nos différents réseaux, sur une digital card qui soit poussée par nos comptes corporate, qui compte, voilà, si je prends Microsoft France, 50 000 abonnés, et des digital cards poussées par certains de nos ambassadeurs. Et on s'aperçoit que les engagements, lorsque nos ambassadeurs poussent leur contenu, peuvent être plus importants que nos comptes corp qui détiennent 10 ou 50 fois plus d'abonnés. Donc, ça confirme également que la personnalisation des messages et l'incarnation des messages par les employés est quelque chose qui aujourd'hui marche et est nécessaire pour les marques. Donner la parole aux employés et pas uniquement via des réseaux d'entreprise.
Est-ce que vous avez des KPI rattachés justement à cette approche ?
Alors effectivement, on a pas mal de KPI au sein de Microsoft. Donc là, on va regarder en termes d'employee generated content le type d'engagement. On va regarder d'un point de vue quantitatif, en tout cas, le nombre d'articles ou de posts au niveau de nos employés. On va regarder en termes qualitatifs le nombre d'engagements. On va également regarder le type de nouvelles relations que cela a pu faire naître avec notre écosystème, avec des clients, des partenaires. Donc, toutes ces choses aujourd'hui sont regardées pour accompagner ces différentes prises de parole.
Ok. Bah écoute, alors voilà, moi je serais bien parti sur encore, bon bah là bien 35 questions, puisqu'on était à 40 tout à l'heure, mais il va falloir qu'on arrive à la fin, donc je te propose de passer aux 4 questions de la fin. Est-ce que tu es chaud ?
Je suis prêt.
Impeccable. Alors, quel est le conseil que tu as reçu qui t'a le plus servi ?
Excellente question. Le conseil, c'est rester curieux. Et rester ouvert, notamment sur les réseaux sociaux. Ça évolue très, très vite. Il y a des nouveaux acteurs tous les jours. Les choses qui marchaient hier ne marchent plus aujourd'hui. Donc, c'est vraiment rester ouvert, rester curieux, tester. Tester et retester en permanence.
Ok. Le réseau social du futur, selon toi, qu'est-ce que c'est ?
Alors là, je vais me permettre de reprendre les pensées de Gloria Mark, qui est chercheuse américaine. Elle est experte en informatique social. Et elle propose aux différentes plateformes de revoir leur déclaration d'intention. Et elle pense que aujourd'hui, enfin en tout cas, la plateforme de demain, elle devra favoriser le développement des relations plus profondes pour leurs utilisateurs, développer de meilleures connexions. Elle devra encourager l'entraide et promouvoir un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et avec enfin un aspect favorisé de l'apprentissage tout au long de la vie. Je pense qu'effectivement, la technologie, elle a cette capacité de promouvoir ce type de comportement. Je pense que le réseau social de demain devra pouvoir répondre à l'ensemble de ces grands enjeux sociétaux.
Donc, aucun qui existe déjà, en tout cas.
En tout cas, beaucoup d'améliorations possibles. Si on avait un peu plus de temps, j'aurais aimé qu'on parle des bulles de filtre, de l'importance du respect des différents points de vue sur les plateformes et des business models et de l'interface utilisateur qui ne vise pas seulement à rendre les utilisateurs addictifs. Donc, je ne cible pas de réseau particulier, hein, mais je pense qu'il y a vraiment nécessité demain de favoriser des réseaux qui favorisent l'entraide et pas uniquement le ciblage. Je sais que c'est des réponses succinctes, mais ce sont des sujets qui sont tellement, tellement importants et auxquels j'ai à cœur que voilà.
Ah, mais c'est clair, c'est des sujets clés. Bon, on te réinvitera, on refera un podcast, on le centrera plus sur ces sujets-là. Alors, l'erreur dont tu as le plus appris?
Alors bon, c'était de manière très opérationnelle, hein, penser qu'on puisse couvrir à peu près tous les événements et les prises de parole de Microsoft. En fait, non, on a beaucoup de prises de parole, on est sur beaucoup d'événements, first ou third party. Et du coup, aujourd'hui, on est plutôt sur une volonté de rationalisation de nos relais en social media et d'amplification des différents messages de nos Microsofties, des employés de Microsoft. Donc, important pour nous de garder une ligne éditoriale qui soit claire et de ne pas non plus inonder le contenu de nos réseaux sociaux. D'avoir également des stratégies de communication qui ne soient pas forcément opportunistes ou pas trop opportunistes, en tout cas, pour avoir une ligne de communication assez claire.
Ok. Bon, alors, la question de la fin. Si tu devais partager un secret de réussite sur les réseaux sociaux avec, mettons, un community manager qui démarre, qu'est-ce que ce serait?
Alors, je dirais, soyez curieux. Ça avance tellement vite dans ce marché-là. Soyez curieux. Formez-vous de manière continue. Typiquement, le paid media n'était pas quelque chose de très important. Il y a encore quelques années, aujourd'hui, il est essentiel. Donc, formez-vous sur les plateformes de paid. Testez les différents formats, les messages, les contenus. Apprenez de vos erreurs, testez encore. Soyez authentique dans les communications. Je sais que ça fait plus d'un conseil, mais enfin, et j'en finirai là, travaillez avec une entreprise ou pour une entreprise dont vous partagez les valeurs. Je pense que ça aidera des valeurs qui résonnent en vous. Ça aidera aussi à être authentique et à prendre plaisir. Prenez plaisir quand vous arrivez le matin au travail. C'est probablement le plus essentiel et c'est valable pour l'ensemble des jobs.
Ah, ça, c'est vrai. Mais tu prends tous ces éléments-là. C'est vrai qu'à la fin, tu ne peux que réussir parce que tu es dans le meilleur contexte. Excellent, excellente réponse de la fin. Merci beaucoup, Clément.
Merci.
Ça a été un plaisir et j'espère qu'on s'en refera à bientôt. Est-ce que tu as une actualité dont tu peux nous parler avant qu'on se sépare?
Écoutez, donc merci à tous les deux. Actualité très rapide. Donc nous avons deux événements, Microsoft Envision de Tours le 14 novembre à Porte de Versailles, qui cible les décisionnaires métiers qui sont curieux ou qui se posent des questions sur l'intelligence économique, l'intelligence numérique. Welcome pour tous les décideurs métiers. Et le 13 et 14 novembre également, Porte de Versailles avec Microsoft Ignite de Tours, qui là vraiment propose deux jours de préparation, formation, audience dev, IT pro. Donc vous êtes welcome, ce sont des événements gratuits. Et donc je serai ravi également de vous accueillir là-bas. On aura une social media room également. Donc pour tous les curieux, je serai ravi de vous accueillir et de vous présenter un petit peu comment on opère le social media chez Microsoft lors de ces deux journées. Merci en tout cas.
Si on a l'occasion de venir, on viendra avec grand plaisir. Parce que nous, carrément, étant dans le sud, on est à Marseille. Mais si on vient régulièrement sur Paris, on viendra très volontiers.
C'était une nouvelle édition de The Community.
Vous pouvez nous retrouver sur iTunes, Google Podcast et notre blog pour encore plus de contenu sur nonly.com, nonli.com.